happy.
Good morning.
Really happy.
Good morning.
With you. With you. With you.
Happy.
Really happy. With you. With you. With you.
Good morning, bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, le premier podcast en live sur Twitter en français qui parle de crypto art, de NFT. J'espère que vous allez bien, c'est Rem ce matin qui vous parle et puis bien sûr il y a John avec moi. Salut John.
JM, salut Rem.
Ça va?
Eh ben ça va très bien.
Ouais.
Ça va très bien. Ouais.
Alors aujourd'hui, c'est mercredi et puis ben, y a notre nouvelle rubrique du mercredi avec Samy Berouni de Decrypt France. Salut Samy.
Hello les gars, comment ça va? Salut tout le monde.
Ça va. Alors toi, on va parler avec toi juste après notre premier invité. Mais déjà, tu peux nous dire un petit peu.
Mais attends, de quoi, juste avant de présenter l'invité, de quoi on va parler juste après?
Alors, aujourd'hui, on va parler industrie créative versus IA. Je ne sais pas si vous avez suivi, il n'y a pas longtemps, on a publié un article sur Decrypt où la BBC qui avait tenté de promouvoir, d'utiliser l'IA pour promouvoir la série de Doctor Who, elle est revenue sur sa décision suite
Doctor
à des plaintes.
Doctor Who.
Ok.
Ça va être marrant. Rem, il est chaud, je pense.
J'ai l'impression qu'il a plein de blagues dans sa poche.
Donc voilà.
Non, mais alors, c'est top. Attends, mais tu veux dire par là qu'on ne va pas parler de memecoin ce matin? Mais qu'est-ce qui se passe?
Écoute, Rem, on ne parlera pas de Bitcoin.
Il y a la censure.
Ni de Bitcoin, ni de memecoin.
Alors, pour tout le monde, hein, sachez que c'est une requête aussi de Rem, hein, à la base. On voulait surfer sur la vague, sur la tendance du moment, continuer à narrer un petit peu ce qui se passe au moment sur le marché.
Mais on n'est pas des gens qui surfront sur les vagues, nous, voilà.
On pourrait multiplier notre audience par 10 en parlant des sujets qui intéressent tout le monde. Mais non, nous, on va choisir des sujets pointus, quoi. C'est ça. Nous, on est le Arte, tu vois, du Twitter Space.
Exactement, Radio France. Le Radio France des NFT. Bonjour à tous. Mais on va quand même parler finance, je crois, ou airdrop quand même.
On va parler marketing surtout, Rem, parce qu'on a avec nous, du coup, Arnaud. Donc, Arnaud Favier, fondateur de Flambeau, donc Flambeau XYZ, qui est tout simplement un outil de marketing, un outil de marketing qui passe par les NFT pour faire la promotion d'un projet, d'un produit ou de tout ce que vous avez via une technique d'airdrop. Mais tu vas nous en dire un peu plus, Arnaud, n'est-ce pas?
Exact, bonjour à tous, merci de me recevoir ce matin.
Salut Arnaud.
Hello Rem, hello John.
Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que déjà mon résumé un petit peu de Flambeau, ça colle?
C'est exactement ça, c'est tout à fait cela. Il y a juste une petite particularité en plus, c'est qu'on a des NFT éphémères, donc les NFT sont capables de disparaître des wallets des personnes ciblées. Autrement, tu as très bien résumé.
Donc Rem, tu as compris le principe, ça veut dire que imagine-toi demain, tu lances par exemple l'école de Rémi et donc tu as envie de faire la promotion, tu vas airdropper des flyers digitaux sous forme de NFT dans les wallets de millions de personnes. Donc ça peut être l'école de Rémi ou ça peut être ton nouveau justement shitcoin.
Alors déjà est-ce que je peux me permettre?
Non, je savais. C'est pour ça que je.
Non, mais parce que j'ai déjà reçu des flyers, des trucs comme ça. Mais le problème, c'est que ça va dans les.
Attends, mais viens, on fait le projet. Okay. Vas-y, deux secondes.
Pardon.
Deux secondes. Laisse-nous développer. Ok, attends, viens. Déjà qu'on ait compris le principe, au moins.
Ça va dans un endroit que je les vois pas, et quand je les vois, c'est beaucoup trop tard, en fait. Mais bon, ok.
Bon, et ben, je pense que ça va être forcément, c'est un sujet, en effet. Mais donc, vous avez compris le principe. Et donc, en fait, toi, on va rentrer là-dessus, mais c'est un vrai, c'est créé comme un vrai outil marketing où tu fais des campagnes. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser des outils pour faire des emailing, pour faire des campagnes de SMS, pour faire des campagnes de push, finalement, c'est un peu la même logique, Arnaud, c'est ça?
Exactement. C'est exactement ça. Si vous avez l'habitude de Facebook Ads, c'est la même interface, très simplifiée, dans laquelle on va créer une audience que l'on souhaite cibler. Ensuite, on va pouvoir leur créer le NFT publicitaire, donc une campagne. Et ensuite, on monitore les performances. Donc, c'est très similaire à ce que peut proposer Facebook Ads, sauf que là, c'est dédié pour le Web3 et ça permet d'acquérir des utilisateurs Web3, donc de grossir votre communauté d'utilisateurs blockchain.
Alors, merci Arnaud. Alors, c'est quoi ton background déjà, Arnaud ? Comment t'es arrivé finalement déjà un peu dans la blockchain et puis dans cette idée de flambeau ?
Ouais, alors je m'intéresse au Bitcoin depuis 2011. J'ai d'ailleurs un tweet pour les plus courageux qui veulent scroller tout mon Twitter. Vous pouvez trouver un tweet de 2011 comme quoi je m'intéresse à Bitcoin. J'avais lu un article de blog à l'époque. Le cours, à la base, à cette époque, il était à 7$, si je me souviens bien.
Forcément, t'en as pas acheté.
Bah forcément non, j'attendais qu'il... J'ai voulu en acheter quelques années plus tard.
J'attendais qu'il baisse à 5$.
Exactement. Non, il était à 14, j'ai voulu en acheter, je me suis dit à 14, je vais attendre que ça redescende en dessous de 10. C'est jamais redescendu, ça a fait 100, 1000, 10 000. Mais ouais, du coup, je suis depuis assez longtemps tout ça. Et ensuite, je suis parti à Londres pour des études, pour un stage. Et là-bas, la communauté crypto était assez développée. Donc j'ai rencontré pas mal de personnes qui étaient beaucoup sur Ethereum. J'ai suivi ce qui se passait, donc de plus en plus se tenir au courant des nouveautés. Et en parallèle, je faisais des études d'ingénieur en informatique. Et une fois mon école terminée, j'ai décidé de partir en thèse de doctorat à Sorbonne Université. Et à ce moment-là, j'ai choisi comme sujet d'étude les systèmes distribués et tout ce qui va tourner un peu autour de la blockchain, notamment les problèmes de consensus et d'élection de leaders.
Donc, t'es pas trop con, quoi. Non, mais t'as quand même pas mal de creusé le sujet, donc t'as fait un PhD. Tu l'as déjà validé ? Enfin, t'as validé ton PhD ou pas là-dessus ?
Ouais, tout à fait. Ouais, je l'ai validé en 2022.
Ouais, en 2022. Bah, déjà, félicitations. Ça va être une sacrée thèse. Pourquoi le marketing ? Pourquoi les airdrops ?
Ouais, tout à fait. Alors, au début, on s'est posé la question... Donc, une fois que j'ai terminé ma thèse, j'ai rejoint un programme d'entrepreneuriat à Station F qui s'appelle Entrepreneur First, donc à Paris, dans lequel on peut trouver un associé. Et avec mon associé, on s'est rendu compte qu'une passion qu'on avait initiale était autour des jeux vidéo et on a voulu aider les studios de jeux vidéo traditionnels à transitionner vers le Web 3. Et l'un des principaux vecteurs de transition était les NFT. Donc on s'est pas mal intéressé aux NFT, mais dans un premier temps pour les jeux vidéo. Et on voulait faire une plateforme qui permettait de créer très facilement des NFT sous forme d'un SDK. Et une fois qu'on s'est un peu confronté au marché, qu'on a contacté pas mal d'éditeurs de jeux vidéo, on s'est rendu compte qu'il y avait de gros acteurs qui étaient dessus, très gros, qui avaient levé énormément d'argent, et que nous étions un peu petits, pas d'innovation spécifique. Donc on a switché sur la partie plus analytics pour les jeux vidéo. Et donc on proposait des dashboards pour suivre un peu les évolutions des cours du NFT, les holders, la répartition des holders, ce genre de choses. Et à terme, on a identifié un besoin qui était de faire grossir les communautés, donc de gagner en visibilité et de communiquer sur son projet. Et c'est comme ça qu'est né Flambeau.
Très bien, très bien. Donc alors Flambeau, donc on a compris le principe, hein, donc c'est vraiment faire du marketing, de la promotion via du airdrop de NFT dans des wallets. J'imagine que voilà, ça passe. Vous allez envoyer sur des milliers, des dizaines de milliers, voire plus de wallets pour pouvoir envoyer un message. Je pense que là, on peut rentrer un peu dans le sujet. Est-ce que vous avez déjà une expérience significative probante qui montre l'efficacité de ce type de méthode de marketing ? Parce que, Rem l'a dit. Je pense que vous devez avoir quand même des levées de boucliers assez régulières sur cette pratique qui, d'une part, est potentiellement un peu intrusive. Enfin, disons que tu arrives au milieu d'un scam et d'un rug sur ta gauche et sur ta droite, et au milieu, tu as une pub. Donc, c'est vrai que vous arrivez un peu dans l'endroit où... au milieu un peu des poubelles, quoi, sans vouloir. C'est-à-dire qu'il y a ce côté-là un petit peu où, même si c'est legit... t'arrives un peu dans une sorte de zone où tu te dis bon ok, enfin tu vois au minimum c'est vrai que c'est un fly, au minimum c'est une sorte de flyer un peu indésirable dans ta boîte aux lettres. Et puis au-delà de ça, le deuxième point c'est un peu l'efficacité, comme le dit Rem, ça arrive dans tes hidden NFT, souvent t'envoies quelque chose, tu vas aller checker peut-être toutes les 2-3 semaines ou tous les 2-3 mois. Et donc, est-ce que ça marche, quoi ?
Yes, très bonne question. C'est la question qu'on nous pose souvent, d'ailleurs. Et la réponse est très simple, et oui, ça fonctionne. On l'a fait plusieurs fois, et notamment avec un studio de jeux vidéo qui fait un jeu de foot sur BNB et Polygon, qui s'appelle Ultimate Champions. Et avec Ultimate Champions, on a targeté 50 000 wallets. Donc c'était des wallets ciblés de personnes qui ont un intérêt pour les jeux de foot, c'est-à-dire qui étaient soit des holders de Sorare, soit qui avaient un lien avec des NFT de jeux de foot ou du sport. Et parmi ces 50 000 wallets, on a réussi à générer un taux de clic assez important, qui est tout à fait correct. On avait généré quasiment 800 clics pour leur site, donc après des joueurs qui vont pouvoir s'inscrire sur leur site. Donc on avait un CTR de à peu près 1,54, un click-through rate de 1,54, ce qui est tout à fait correct pour un ciblage d'utilisateurs Web3 qualifiés. Donc avec des personnes qui sont quand même target pas tout et n'importe quoi comme va pouvoir le faire plus Google Ads ou Facebook Ads, où il y a énormément de monde. Nous, c'est déjà sur une communauté plus ciblée, des personnes actives, et donc on a eu des résultats tout à fait corrects. Donc ça, c'est pour la première partie. La deuxième...
Ils ont eu 800 clics.
Ouais.
Donc ça veut dire que, juste pour comprendre, ils voient, donc, on va dire, j'ai appelé ça un flyer, quoi, pour faire simple, et dans la description, il va y avoir le lien qui leur permet d'arriver sur le site, c'est ça ?
Exactement, ils reçoivent un NFT, qui ne ressemble pas du tout à un scam d'ailleurs, c'est un NFT assez sympathique, qui leur dit, bah voilà, vous pouvez, enfin, découvrez notre jeu, vous gagnez un kick-off pack, vous avez quelque chose qui n'a pas, c'est pas, je vous promets, 2000 USDT, non, on n'est pas là-dessus, on est sur une publicité... plutôt classique, dans laquelle il y a un petit descriptif, c'est certifié Flambeau, donc c'est là où nous on agit comme étant un intermédiaire de confiance et une marque, et derrière ça les redirige vers le site web de notre client, donc là du jeu de foot, et ils peuvent après s'inscrire, les joueurs, faire des achats, enfin, après ils mènent leur vie.
D'accord, très bien. Donc 800, donc j'imagine que 800, très bien. Ok, 800 clics. Donc, en tout cas, il y a des gens qui cliquent, et parmi les 800, tu peux imaginer qu'il y en a peut-être quelques-uns qui ont souscrit au service.
Tout à fait.
Qui ont payé. Donc, ouais. Donc, on voit, donc potentiellement, ça marche. Est-ce que, sur les problèmes un petit peu d'image liés, on va dire, à cette pratique, j'imagine qu'on vous en a déjà parlé, non ?
Bien entendu. Tout ce qui concerne l'affichage donc en spam et puis la notoriété sur l'image de marque, ce sont deux problèmes que nous avons. Alors, concernant les spams, on est en train de travailler avec les wallets, notamment avec MetaMask. On bosse aussi avec OpenSea parce que beaucoup de personnes regardent les NFT sur OpenSea, afin de faire certifier nos collections. Et quand on émet une collection, nous, on est un intermédiaire de confiance à la fois pour l'utilisateur final qui va recevoir la pub. On le certifie que ce n'est pas un scam. Si l'utilisateur final ne veut pas recevoir de publicité, il peut se désinscrire sur notre site. Il y a une page sur flambeau.xyz, une page unsubscribe, sur laquelle il rentre son adresse de wallet et on ne l'embêtera plus. On retire le NFT dans les minutes qui suivent et on ne l'embête plus. Et donc on travaille pour faire certifier nos collections avec les wallets, puisque nous, on filtre les projets qui vont faire de la publicité, on n'accepte pas les scams, on rencontre les personnes avant, au moins en visio, et on vérifie que le projet est legit pour pouvoir les diffuser.
Yes. Et alors là, du coup, donc là maintenant, l'offre est ouverte, ça veut dire que tous les gens qui lancent des projets, sur lesquels ils veulent cibler finalement les gens du Web3, peuvent vous contacter et utiliser votre technologie.
Exactement. Donc, il suffit d'aller sur flambeau.xyz. On peut se créer un compte et commencer à utiliser l'outil. Donc, l'outil en ligne est une version basique. Nous, on propose pas mal d'autres services à côté pour aller plus loin. La grosse particularité que nous avons, c'est qu'on va utiliser toutes les données blockchain pour le ciblage des utilisateurs. Donc, c'est-à-dire que quand on veut cibler des personnes, on va créer une audience. Et cette création d'audience-là, elle est assez intéressante. On a plusieurs algorithmes derrière qui utilisent les données blockchain, c'est-à-dire qu'on va regarder un wallet, on va étudier les NFT qu'il possède, et ici, il possède majoritairement des NFT autour du jeu vidéo, on va étudier quel type de jeu vidéo est-ce, et derrière, on va établir un profil. Alors, il y en a, ça va être les jeux vidéo. D'autres, ça va être des NFT de marques de luxe.
Oui, tu fais des personas en fonction des assets détenus.
D'accord. Exactement. Voilà, c'est ça. En fonction des assets détenus, en fonction des tokens et en fonction des dates
d'activité. Cible... Non, mais en fait, la pratique marketing, elle est hyper intéressante. Cibler les personnes en fonction de ce qu'ils possèdent, je pense que c'est l'avenir du marketing. Je pense que là, il y a une vraie question. Et en fait, vous vous glissez à un endroit où il y a une... pour l'instant, une sorte de trou béant, qui est le fait qu'il n'y a pas de communication à wallet vraiment bien établie jusqu'au moment où le protocole, je ne sais plus comment il s'appelle, qui permet de communiquer, enfin, au moment où il y a un standard, on va dire, qui va s'établir entre XMTP. Les wallets. Comment il s'appelle déjà ?
XMTP, je pense.
XMTP, voilà, excuse-moi, merci beaucoup. Et donc, j'imagine que vous faites ça en attendant de pouvoir faire du XMTP, non ?
Alors, on a déjà essayé de faire des campagnes sur XMTP, sur des petits échantillons, juste pour voir les
pertes. XMTP, pour ceux qui connaissent pas, c'est juste un système, c'est un protocole de messagerie par wallet. Donc, il a été adopté par, je crois que par Coinbase Wallet, je crois que c'est le plus gros wallet qui utilise ce protocole pour l'instant. Mais peut-être qu'il y en aura d'autres petit à petit qui vont l'adopter, et donc ça permettrait à terme d'être un peu le WhatsApp des wallets, on va dire, de pouvoir avoir un protocole de communication. Et donc, ouais, tu disais, vous avez essayé XMTP ?
Ouais, on a essayé de lancer une campagne sur XMTP, sur un petit échantillon. Et en fait, pour le moment, il y a peu de personnes qui utilisent XMTP pour avoir des résultats probants, puisque dans le marketing et l'advertising, il faut quand même cibler pas mal de personnes. Donc, on n'avait pas eu des résultats suffisamment intéressants. Donc, pour le moment, c'est mis en pause.
Mais bien sûr, mais j'imagine qu'à terme... Vous allez un peu suivre cette tendance des... Enfin, là, pour l'instant, c'est le seul moyen de communication qu'on a vers un wallet, finalement, d'airdropper un NFT.
Eh bien, oui, c'est soit ce moyen-là, soit il y a des notifications push. Il y a pas mal de choses qui se passent autour du Web3 push. Il y a des intégrations, notamment avec MetaMask sur desktop, où on peut accepter des mini-zaps qui permettent ensuite de recevoir des notifications push. Donc, on regarde aussi de ce côté-là. Sinon, à part XMTP, on en revient, oui, au airdrop de NFT, qui, malgré le manque de visibilité par certains wallets, ça dépend, il y a des wallets mobiles qui permettent d'un peu mieux afficher les NFT, mais oui, c'est l'un des principaux canaux de communication qu'on a.
Rem, Samy d'ailleurs aussi, vous avez un petit avis sur le sujet? Samy, il est chaud, il a envie de dire un truc. Ah non, Samy, il est en request. Vas-y, Rem.
Non, bah, écoute...
Moi, je trouve ça hyper intéressant, si je peux poser une ou deux questions, messieurs.
Quoi ?
Ah bah ouais, carrément.
Vous m'entendez ? Non, ouais. Moi, je trouve ça hyper intéressant.
J'ai pas entendu ce que t'as dit, Rem.
Ah, t'entends pas Samy, en fait.
Et en fait, moi, j'arrête pas de me faire rug depuis tout à l'heure.
Bon, Samy...
J'essaie d'entendre Arnaud, mais je quitte, j'entends, ça c'est un chassement d'Arnaud, mais...
T'as vraiment un son pas top. Tu nous entends, toi ? Ok. Bon, je vais lui envoyer un petit message. Vas-y, John.
Je voulais justement un peu amorcer la transition. J'étais en phase transition, là, tu vois. Toi, du coup, sur le côté... Enfin, ce que tu disais, Rem, sur le côté airdrop, t'es quoi tu trouves ça intéressant? T'es sceptique? T'en penses quoi?
Ben, j'assimile ça un peu au prospectus dans la boîte aux lettres, quoi. Tu vois, ça veut dire... est-ce que tu les regardes? Moi, le problème que j'ai, c'est que ça va dans le hidden. Donc, par définition, je ne les vois pas. Maintenant, je ne sais pas.
Alors, on travaille là-dessus pour éviter justement que ça apparaisse dans les hidden sur les wallets. Et l'une des choses qu'on a en particularité, c'est qu'on n'émet jamais plus de 1 NFT éphémère par personne. C'est-à-dire que la personne reçoit 1 NFT, mais elle n'en recevra pas 2, donc il n'y a pas cette notion de spam de notre part. C'est 1 NFT maximum par wallet pendant une certaine durée. Puisqu'on a ce concept de NFT éphémère qu'on a développé en interne, le NFT va rester sur le wallet de l'utilisateur pendant une semaine, 3 semaines, 1 mois, et après il va disparaître. Donc ça, c'est assez intéressant d'un point de vue marketing.
Ouais, bien sûr. Bah déjà, tout à fait, ouais. Ça pollue pas les wallets, quoi.
Exactement. Enfin, ou pas... exactement. on évite. C'est comme s'il y avait un prospectus dans ta boîte aux lettres et en fait, au bout d'un mois, le prospectus...
Non, et puis je voulais compléter. Un prospectus qui a une utilité aussi, qui me permet d'avoir... Il y en a certains, genre... venez en caisse avec ce prospectus, vous avez 50%. Mais... C'est assez cool, quoi.
C'est exactement l'idée. Grâce à la durée limitée du NFT, on en profite pour faire des offres promotionnelles à durée limitée. Donc ça va être, si vous inscrivez pendant que vous avez ce NFT-là, donc on voit que la personne possède le NFT sur son wallet, eh bien ils ont un kick-off pack de départ, donc ils vont commencer dans le jeu avec certaines cartes, ou bien ils ont moins 10% sur l'achat de leur premier NFT, etc. Donc c'est ce genre de choses-là qui est intéressante. Après...
Je pense que l'analogie avec le prospectus, c'est pas mal. C'est-à-dire que malgré tout, les gens se plaignent. Tu peux avoir des gens qui se plaignent un peu. Enfin, des gens qui disent no pub stickers, tu vois. Mais d'un autre côté, si les gens le font, c'est que ça marche. Et que tu vas avoir justement, comme il a dit, quoi, les 800 personnes sur 50 000 qui vont regarder ce qui se passe.
Ouais, donc c'est ça
la loi du marketing.
Ouais. Et après, là où je pense qu'il faut... Il faut travailler, c'est sur la partie, l'histoire de dis-moi ce que tu possèdes et je te dirai qui tu es. Et en fait, je me dis, aujourd'hui, c'est un peu trop facile, tu vois. On se dit automatiquement, je vais cibler les collections blue chip. Alors déjà maintenant aujourd'hui, on en est à cette question de dire bon, qu'est-ce qui reste comme blue chip. Mais au-delà de ça, par exemple, il y a des super wallets avec des œuvres magnifiques, des collections hyper intéressantes, mais qui sont un peu sous les radars parce que ça n'avait pas forcément partie des collections qu'on a en tête. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail aussi d'acuité pour comprendre aussi. Pour déterminer les bonnes personnes, voilà.
Tout à fait. Et là, nous, ce qu'on fait, donc on regarde l'historique des NFT, on regarde les NFT possédés à un instant T, et on regarde aussi les POAP, parce que grâce aux POAP, on peut déterminer la position, du moins l'intérêt géographique des personnes. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait deux années consécutives le POAP de la NFT Paris, par exemple, c'est quelqu'un qui va avoir un intérêt pour la France, l'Europe et potentiellement Paris. Donc suite à ça, on peut en déduire une estimation d'intérêt géographique. Donc c'est le genre de data qu'on va utiliser.
Excellent. Non, ça c'est... Ouais, POAP, c'est...
Il y a Jérémy qui est sur scène avec nous aussi.
Ouais, salut, je m'accruste, JMJM. Bonjour, Arnaud. Moi, j'ai une question, j'en profite parce que Samy se fait rec par Twitter, donc je prends son temps de parole.
Capital a pris le pavoir sur des cryptes.
et ça n'est que le début. Mais je voulais savoir, Arnaud, en fait, du coup, alors tu as évoqué Ultimate Champions, donc c'est Unagi parmi votre clientèle. Mais en fin de compte, justement, est-ce que tu as le droit de dévoiler une typologie de clients que vous avez. Et je m'interroge aussi sur la due diligence que vous faites vous-même par rapport à vos clients, parce que je me demande si vous n'êtes pas à l'abri non plus qu'un jour, une boîte qui a l'air très intentionnée vous demande d'airdropper un NFT temporairement pour un futur rug, quoi. Donc, à moins qu'il y ait quelque chose là-dessus que vous ayez évoqué et que j'ai omis, mais est-ce que tu peux en dire plus là-dessus ?
Tout à fait. Alors pour le cas de Unagi, j'ai pas dévoilé précisément, on va dire, leur cible. Bien sûr, ils font un jeu de foot, donc ils vont cibler des utilisateurs potentiellement intéressés par les jeux de foot. Et il y a l'un des jeux de foot les plus connus qui est Sorare. Donc j'ai cité ça de manière assez vague. Mais oui, tout à fait. On va s'intéresser aux wallets qui ont des intérêts pour les jeux de foot. Donc ça, c'est pour le cas de Unagi. Ensuite, pour le cas de la vérification des projets, pour le moment, ça se fait plutôt en call. Donc on va faire un appel avec les projets. On va regarder qui ils sont. On va regarder leur historique, s'ils sont connus dans la communauté et s'ils font quelque chose de sérieux. Effectivement, on n'est pas à l'abri d'une personne qui, à tout moment, veut faire un rug pull. À ce moment-là, nous, on peut retirer les NFT en masse. Si c'est quelque chose qui arrive, on les retire tous. Donc, ça va quand même réduire l'impact de leur rug pull. Et le but n'est quand même, pour eux, pour leur image, pas de faire ça. Donc, on court quand même ce risque. Tout comme sur Facebook, on peut lancer une publicité et faire une arnaque, mais la publicité va être assez rapidement démasquée et va être arrêtée. On a ce risque-là, mais pour le moment, on le gère plutôt bien, même s'il y a une vérification qui est en partie manuelle.
Alors, une question subsidiaire, enfin même deux. Alors Unagi, j'avais bien compris que vous cibliez les wallets qui étaient forcément, qui avaient des centres d'intérêt communs. Mais ma question, c'était quelle typologie, vous, de partenaires avec quel type de partenaire vous bossez au-delà du Nagui. Est-ce qu'il y a d'autres clients que tu peux mentionner? Et si tu ne peux pas les mentionner, c'est OK. Et en fin de compte, ensuite, tu disais que tu pouvais retirer, vous pouviez retirer les NFT. Je ne vois pas trop comment vous faites. Vous les burnez, vous les transférez. Comment ça marche? C'est quel type de standard, en fin de compte?
Oui, tout à fait. Alors, notre typologie de clients, principalement, nous avons des jeux, tout ce qui va être le gaming sur le Web3. Pourquoi? Parce que le gaming, ils ont toujours besoin de nouveaux utilisateurs, ils ont un usage des NFT, et donc on travaille avec plusieurs autres studios de jeux vidéo sur lesquels on les aide à lancer leur campagne marketing. Deuxième typologie de clients que nous avons, on a tout ce qui va être autour de l'événementiel et du ticketing, notamment. Pour des événements, grâce au POAP, on peut dériver position géographique, un intérêt géographique, et par conséquent les cibler. Et troisième typologie de clients que nous démarchons, on n'a pas encore travaillé avec eux, mais on est en process, ça va être tout ce qui est des marques de luxe, où on essaie de recibler d'autres personnes qui ont par le passé eu des NFT autour du luxe, donc pour les produits de luxe. Enfin, on travaille avec des agences marketing qui, elles, s'occupent de grossir la communauté Web3 de leurs clients et qui utilisent Flambeau comme un outil pour grossir la communauté de leurs clients, tout simplement. Donc ça, c'est la première partie. Concernant les NFT éphémères, on se base sur les standards existants. Donc là, on a fait le 1155 et c'est une modification en interne du 1155 que nous avons qui permet non pas de les burner, mais tout simplement de les récupérer. En fait, notre wallet, il est capable de récupérer les NFT, donc il les envoie. Et même quand le NFT est possédé par quelqu'un, nous, on garde un certain droit dessus qui nous permet de le récupérer par la suite et de le redispatcher. Donc ça, c'est un petit peu notre secret sauce.
Ok, bah je ne savais même pas que c'était possible. D'accord. Bah merci en tout cas.
Voilà, je t'en prie. Merci à toi.
Alors, est-ce que vous m'entendez là?
Hey, famille.
Hey, he's back.
Ouais.
Mais je me prends rock sur rock ce matin, c'est terrible. Non, alors rapidement, pour pas qu'on prenne tout votre temps, je trouve ça hyper intéressant et je connais Flambeau et je trouve que c'est cool le chemin du marketing Web3, il est encore assez vierge, tout ce qui se crée, tout ce qui se passe, c'est assez nouveau à chaque fois et les entrepreneurs qui sont qui innovent dans ce secteur, vraiment, ils créent des trucs nouveaux, quoi. On n'est plus du tout sur du gros marketing Web 2 à l'ancienne, etc. Donc, déjà, rien que pour ça, moi, je trouve ça hyper intéressant. Après, j'ai une question et une observation. Pour la question, du coup, si je comprends bien, Arnaud, vous envoyez un NFT, parce que j'ai pas tout entendu parce que j'ai été rogue, vous envoyez un NFT éphémère sur le wallet de quelqu'un. D'après mes connaissances, en gros, le NFT, quand tu l'envoies à quelqu'un pour pas qu'il finisse dans les hidden, il faut que la collection soit vérifiée ou un truc comme ça. Est-ce que c'est un truc que vous avez déjà vous travaillez en amont du coup avec
Arnaud nous a dit qu'il est en il travaille ça avec OpenSea pour que leur collection soit vérifiée par défaut. Ce qui est pas le cas pour l'instant, mais ce qui est en process quoi.
Ok, d'accord. Ma réponse. Et mon observation, c'est que je trouve aujourd'hui, moi, ce que je trouve le plus intéressant dans l'utilisation des data on-chain dans le marketing, c'est plus au niveau de l'expérientiel. Tu vois, c'est quand tu as ça dans ton wallet. En gros, ce qu'on va essayer de enhance une espèce d'expérience quand tu vas visiter un autre site, quand tu vas faire telle ou telle action sur le on-chain qui va faire que tu vas pouvoir être entre guillemets traqué pour pouvoir et personnaliser une expérience et améliorer l'expérience ou créer complètement une expérience complètement nouvelle. Et je voulais savoir si c'était un truc aussi si c'est un truc que vous essayez un petit peu d'explorer aussi. Voilà.
Yes. Alors juste pour compléter sur les spams, via l'outil qui est disponible en ligne sur flambeau.xyz, on est capable de savoir une collection pourquoi elle est catégorisée comme spam, notamment si elle a émis trop de tokens, qu'elle a fait un trop grand nombre de airdrops, notamment des honeypots. Il y a pas mal de détails qu'on a à partir des API des data providers blockchain sur lesquels se basent notamment OpenSea et d'autres. Donc on travaille là-dessus à la fois avec les wallets, ou les affichages, on va dire les afficheurs de NFT, et on regarde aussi comment les API traitent la réputation des collections de NFT et quels sont leurs critères. Donc on a accès à ça. Sur la partie expérience, on n'est pas, nous, directement dans l'expérience. On laisse plutôt ça à nos clients. C'est-à-dire que si nos clients veulent fournir une expérience spécifique sur leur site une fois qu'une personne a reçu un NFT de la part de Flambeau, ça, ils peuvent le faire. Mais c'est vrai que c'est pas nous qui allons être le premier vecteur de travail là-dessus. C'est pas vraiment ce que nous, on va faire. Ça peut arriver par la suite. Pour le moment, j'avoue qu'on l'a pas dans les projets. C'est quelque chose dont on nous parle, mais on laisse plutôt ça aux côtés de nos clients.
Bah, génial. Bah, je pense que c'était déjà très intéressant. On a un peu plus développé que prévu, mais ça vaut le coup. Je pense qu'en effet, enfin, moi, je le vois quand même comme l'intérêt de votre solution plus que l'expérience. Pour moi, aujourd'hui, c'est la masse. Ça veut dire que si demain, tu peux toucher 50 millions de wallets, bah, forcément, quantity brings quality at the end of the day. Donc là, tu nous as dit 800 clics sur 50 000 wallets. Donc, si tu fais une extrapolation et que tu pars sur 5 millions de wallets, tu vas générer 80 000 clics. Et là, ça peut commencer à être intéressant pour générer un peu de traction sur un service, quoi.
Tout à fait. On va grossir en même temps que l'écosystème Web3 grossit, comme de nombreux acteurs.
Génial. Eh bien, écoute, c'est super. Arnaud, tu restes avec nous parce qu'on a, on va parler d'un sujet complètement différent. C'est justement, c'est un article qui est sorti dans Decrypt, Samy, je crois que c'était la semaine dernière. Et donc, tu peux nous faire un petit résumé, Samy.
Là, on fait un petit virage à 360 sur les sujets. On quitte la scène pour se concentrer sur le fond. Aujourd'hui, on va parler d'IA et d'industrie créative. L'article en question, il est apparu hier, en tout cas la semaine dernière, mais on l'a actualisé pour le français hier. Et en gros, on reprend la nouvelle de la BBC qui abandonne le projet de faire la promo de son show Doctor Who avec de l'IA. Et la raison est simple, c'est que les téléspectateurs ont porté plainte sur le site des plaintes de la BBC. Il y a un site des plaintes de la BBC. Et donc, en gros, ça fait écho un petit peu à l'utilisation de l'IA dans les industries créatives. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu un petit moment où il y a eu tout Hollywood qui a fait grève à la française et qui ont réussi à avoir un accord avec ce qui s'appelle la guilde des scénaristes. Donc, en gros, c'est ça dont on va parler aujourd'hui. On va essayer de comprendre pourquoi, est-ce qui a motivé déjà la BBC à faire ça, à créer. En gros, ils voulaient utiliser l'IA pour des supports marketing promo. L'idée, c'était pas de décrire l'épisode ou de faire vraiment des visuels ou des rendus très aboutis. L'idée, c'était très simple, c'était de décrire des emails promo. Et des notifications push avec de l'IA. Donc, je pense que c'est un truc, c'est aussi simple que nous quand on utilise ChatGPT pour corriger une phrase. Ils n'ont pas déclaré quelle était l'IA ou l'outil qu'ils ont utilisé, mais on devine beaucoup en lisant les textes. Rapidement, pour faire un peu le retour, le 8 mars, on avait publié un article sur Decrypt qui annonçait justement à la BBC qui allait expérimenter l'IA générative. Sur ces shows, en commençant par Doctor Who. Pourquoi? Parce que au niveau du thème, c'est assez simple. J'ai jamais regardé Doctor Who. Je pense que Rem, lui, il est très très chaud sur le sujet. mais moi, j'ai jamais regardé Doctor Who. Globalement, ça s'y prête bien parce que le thème, c'est les extraterrestres, un mec qui voyage dans le temps et même qui parle avec une IA, je crois, dans quelques épisodes. Et du coup, l'idée c'était de tester sur ce show-là. Et la BBC avait annoncé que pour créer du matériel de marketing, elles allaient commencer à utiliser un petit peu les IA génératives pour Doctor Who. L'expérience, c'était vraiment encore une fois très simple. C'était pas de créer des visuels encore une fois ou des rendus très aboutis. On parle d'email et de notifications push et des textes marketing. Grosso modo, c'était plutôt que d'engager une agence pour la stratégie marketing, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas une IA? La motivation de départ de la BBC, c'était clairement une question de coût et de rendement. Comment recruter une agence alors qu'on peut utiliser ça avec une IA? Donc c'était vraiment purement stratégie marketing ici aussi. Mais l'annonce a pas créé forcément du succès au niveau des téléspectateurs. Et comme on parle de téléspectateurs, vraiment l'audience c'est ce qui prime le mieux. Mais ils ont quand même essayé. Ils ont quand même essayé. Et la semaine dernière, justement, ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter cet essai. La BBC abandonne donc a déclaré qu'elle n'avait plus l'intention d'utiliser l'IA, l'IA générative dans ses supports marketing pour Doctor Who ou pour aucun autre de ses shows. Globalement, la BBC avait indiqué qu'elle avait reçu beaucoup de plaintes. On connaît pas le nombre de plaintes exactes, mais qu'ils allaient prendre compte de ces plaintes et de plus utiliser ça. Decrypt a contacté la BBC. On a contacté la BBC pour essayer d'avoir un commentaire un peu sur sur ça. Et on attend encore quelques retours si on peut en avoir pour avoir un peu plus d'éclairage sur les textes en l'occurrence qui ont été écrits. Quelle est la position un petit peu des exécutifs sur ce sujet et avoir un commentaire sur les plaintes, quoi.
Un truc, Samy, juste. Enfin, vas-y. En gros, donc les gens se sont pris des emails promotionnels. Donc là, on parlait justement. Donc on reste un peu dans le sujet du marketing, qui est de se prendre une promotion. Donc on va dire que je suis abonné à la newsletter de la BBC ou je suis sur le compte. J'ai un compte BBC online ou enfin bref, la BBC a mon email. Et donc, je vais me prendre une campagne d'emailing sur la nouvelle saison de Doctor Who qui va être générée, donc de manière personnalisée, j'imagine, via ChatGPT. Et donc, j'imagine que c'est un système... Enfin, je dis ChatGPT, bon, via une IA. Donc, c'est un système qui va, un peu comme ça se fait dans des... Comme certains font des campagnes de cold marketing en disant « Hello, machin » et en brassant 2-3 données de la personne, faire un rédactionnel qui correspond au fait que à des informations potentiellement personnelles des gens qui sont mixées avec la promotion du programme. Enfin, c'est ça l'idée?
Non, l'idée elle était vraiment vraiment sur la création de contenu en soi. Tu avais justement une déclaration d'ailleurs du responsable de l'inventaire des médias numériques de la BBC, David Ousden, sur le site qui a été effacé depuis, mais qu'on peut retrouver sur des sites comme Wayback Machine d'archives. Il a déclaré que l'IA générative offre une excellente opportunité d'accélérer la création d'actifs supplémentaires pour obtenir davantage et multiplier les expériences qui se déroulent pour créer plus de contenu facilement. L'idée, ça veut tout rien dire, mais en gros, l'idée, c'était vraiment de pouvoir développer des stratégies marketing avec de l'IA. Et là où ils ont été plutôt honnêtes, c'est que comme c'est la BBC, comme c'est semi-étatique, on va dire, ils ont voulu disclose ça, ils ont voulu faire un espèce de disclaimer. Ok, pour cette campagne, on a utilisé l'IA et ça se trouve c'est aussi bête que se faire corriger par ChatGPT.
C'est pour ça que je te disais ça. En fait, c'est ce qu'on fait un peu nous tous les jours. Enfin, tu vois, oui, moi j'envoie un emailing aujourd'hui, je vais le faire corriger par ChatGPT. Je vais même demander à ChatGPT de me faire des suggestions. Je vais peut-être même faire de l'A-B testing sur des campagnes de pub qui se basent sur ChatGPT. C'est le fait qu'ils aient fait ce genre de choses potentiellement et qu'ils aient prévenu les gens parce que c'est la BBC. Et donc, en effet, on va dire que c'est un service public. Enfin, c'est un service public. Et donc, ils ont dit, on a fait des attentions, enfin, on prévient, on fait de l'IA. Et donc, c'est ça qui a énervé les gens, quoi.
Exactement, là, dans l'article, on détaille un peu plus et tu vois que l'expérience IA, comme ils appellent, ça consistait juste à générer plusieurs versions d'un même texte et qui devait être relu par les équipes marketing et validé par les équipes marketing. Ils vont jusqu'à décrire le fait que l'objet de l'email a été aussi rédigé par l'IA. Donc tu vois je pense que c'est une question d'éthique entre guillemets et de disclosabilité, je sais pas si c'est français ça, je suis pas sûr.
Oui, de transparence.
Transparence, merci. Sur ça et sur ce truc-là. Et c'est marrant que rien que ça, ça ait créé autant en fait d'animosité, non pas auprès des leaders de ces industries créatives, mais auprès du public. Et c'est ça qui est assez marrant. On retrouve encore ce narratif qui te dit que le public, en tout cas dans ses plaintes, disait qu'un truc, il avait peur que tout le show allait être remplacé par une IA, etc. Et on parle d'un show qui traite de ces sujets de science-fiction, d'IA, etc. Donc, est-ce que c'est un peu le revers de la médaille toutes ces années où on a parlé d'une IA qui serait un peu omnisciente et dangereuse pour l'humanité? Est-ce que ça n'a pas suscité aussi ça? Je trouve ça assez intéressant aussi. La construction culturelle qu'on a fait de l'IA qui se confronte à l'utilisation de l'IA aujourd'hui en 2024, quoi.
Oui, mais en fait, moi, j'ai le sentiment que là, on n'est même pas... Enfin, parce qu'en fait, tu as plein de questions autour de l'IA, et je pense qu'on n'en est même pas dans ces questions-là. C'est-à-dire que tu as les questions, en effet, enfin, sur le droit d'auteur. Moi, quand j'ai vu l'article au départ, je me suis dit, ah, en fait, ils ont utilisé des extraits de la série de Doctor Who pour recomposer eux-mêmes une bande-annonce basée là-dessus, tu vois. Et donc, ça pose des questions de l'exploitation de droits ou de qui a fait quoi, comment. En fait, là, t'en es même pas là. Là, c'est juste la question de le principe d'utiliser un outil d'assistance basé sur l'IA. Déjà, ça lève des boucliers. Mais je pense que là, si on est à ce niveau-là, c'est juste un sujet pour moi de, on va dire, de simplement d'incompréhension de la technologie pour l'instant et un peu des positions. Enfin, moi, je pense que c'est. Je pense que c'est, ouais.
T'as complètement raison, c'est un sujet d'incompréhension et d'utilisation du truc, mais ce qui est marrant, c'est que là, on a un shift, et enfin, je sais pas si c'est un shift, mais en tout cas, nous, on galère à faire accepter ça, entre guillemets, aux corporate, aux boîtes, aux exécutifs, aux gens qui font les décisions. Et là, on a justement une institution publique et une boîte, quoi, qui va vouloir utiliser ça juste dans ses mails, et là t'as une tollée des téléspectateurs. Ouais, non, je suis pas chaud, arrêtez tout de suite, quoi.
Ouais, mais je pense que honnêtement ils ont tout fait pour se prendre ça. Enfin, honnêtement, tu vois, la BBC, c'est vrai que c'est un peu, bon, on va dire que c'est l'équivalent de France Télévisions, mais encore plus. Enfin, on va dire que, enfin voilà, je vais comparer ça, mais c'est une vraie institution étatique, comme tu l'as dit. Et je pense que malgré tout, déjà, je pense que c'est ce genre de... enfin, qui devait faire débat, mais limite en interne au sein de la BBC, c'est pour ça qu'ils ont disclosé. Enfin, je pense qu'ils ont tout fait pour ils ont tous fait pour limite se prendre le bâton dans la tête, quoi. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de boîtes qui utilisent ce genre de choses, qui font ce genre de pratiques dans les grands comptes aujourd'hui. Ils le disent pas, parce que c'est quoi, enfin, en fait, c'est une révolution qui est bottom-up, en fait, les AI. Ça veut dire que ton stagiaire qui est en train de te faire ta newsletter, il ne va pas forcément te dire qu'il a utilisé ChatGPT, même si, bon, si c'est un mauvais stagiaire, tu vas très vite voir qu'il a utilisé ChatGPT. Mais ça veut dire que c'est de la révolution bottom-up, ça veut dire que tu as des gens, du stagiaire au junior product manager ou junior marketing, qui les utilisent, peut-être leur N+1, et petit à petit, en fait, qu'en effet, quand tu es en top direction, top management, tu ne captes pas trop l'intérêt, enfin, tu vois, tu es sur des questions... t'es sur des questions éthiques éthiques sur le sujet, alors que quand t'es au quotidien, tu sais ce que ça t'apporte, donc tu l'utilises. Et donc c'est là qu'à mon avis la révolution est en train de se passer, c'est que dans, enfin tu vois, à un moment donné il va se passer ça dans toutes les directions, dans, ça va être dans un an, dans deux ans, dans trois ans, ils vont, tu vois, t'as ChatGPT qui va contacter la direction, qui va dire, oh les amis, est-ce que vous savez qu'il y a 1000 personnes dans votre boîte qui utilisent l'outil? Et là, ils vont commencer à reconnaître le sujet. Mais je le vois, enfin, mais je pense qu'avant ça, si tu veux, c'est des sujets qui sont, enfin, c'est des révolutions qui se font parce que l'outil est tellement puissant que de toute façon, t'as pas le choix de pas l'utiliser, quoi. Donc, je pense que c'est plus un débat un petit peu de, enfin, j'ai envie de dire de presque déjà, voilà, un peu un faux débat. Et que ouais, il y a des préjugés, il y a des réactions, mais enfin, tu vois, moi je vois ça un petit peu comme de la politique, quoi, tu vois, ça veut dire, t'as des gens qui parlent de sujets, personne ne sait de quoi ils parlent, mais au final, enfin, c'est ok, la BBC va être le dernier, va interdire l'utilisation de ChatGPT dans sa boîte, fine, au final, ils auront du retard par rapport à d'autres qui le feront sans forcément l'assumer, mais qui le bloqueront pas, quoi, si tu veux. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mon point de vue.
C'est très clair, et je pense que t'as raison. Tu vois, il y a plein de choses qui font que c'est propice à de la méfiance. Tu vois, il y a pas encore, mais je pense qu'on y est très proche, d'un cadre légal qui va, tu vois, donner confiance un petit peu à l'utilisation de ce truc-là. On y arrive, mais tu vois, quand il y a eu ces grèves aux États-Unis, des acteurs et des écrivains qui voulaient justement, en gros, eux, ce qu'ils demandaient, c'était une ligne directrice légale qui pouvait clarifier un peu l'utilisation. Et ça, ça a été trouvé. Il y a eu un accord qui a été fait, je te dis, avec la guilde des écrivains, la guilde d'Amérique. Writers Guild of America, je crois que ça s'appelle comme ça, pour mettre fin à la grève il y a quelques mois. Ça s'est fini juste il y a quelques mois, donc c'est encore très très frais. Et que, en gros, par exemple, pour donner un peu l'idée, l'accord qui a été donné, c'était que l'IA ne peut pas non plus être considérée comme matériel de source et ne peut pas être utilisée pour remplacer, entre guillemets, l'écrivain.
Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un derrière l'IA, quoi. C'est-à-dire que t'as le signataire du script ou du scénario, c'est une personne humaine, quel que soit l'outil qu'elle a utilisé, quoi.
Exactement. Et ça, on a, c'est pas la première fois qu'on a vu une œuvre cinématographique, tu vois, décriée par par les spectateurs. Il y a eu un film d'horreur indépendant. D'horreur indépendant, on n'est pas non plus sur un truc de masse non plus. Late Night with the Devil, ça s'appelle comme ça, qui a avoué qu'il avait utilisé quelques images générées par de l'IA. Donc on encore une fois, c'est un truc qu'on fait déjà en fait. Tu vois, tous les trucs CGI, tous les fonds verts, etc. Enfin, on est sur de l'image synthétique, on n'est pas sur de l'IA proprement parlé forcément, quoique on n'en sait rien. Mais le fait d'avoir mentionné l'utilisation, tu vois, de l'IA dans le film, ça a créé une tollée négative qui va au-delà, si tu veux, de l'audience de films d'horreur indépendants. Américain d'horreur, quoi, tu vois. Donc à la base,
c'était son plan de promo, quoi.
Et au final, est-ce que c'était pas son plan de promo?
Ouais. Je sais pas si Rémi, vous avez un avis sur le sujet. Rem, forcément, non, ça le fait réagir, ça.
Moi, je suis dans le métro, donc je sais pas si à quel point c'est gênant. Mais après, par rapport à la réaction du public, je pense que quoi qu'il en soit, on arrive aussi à une révolution telle qu'aujourd'hui, en fait, de l'IA, il y en a partout depuis 10-15 ans dans les entreprises déjà, de façon invisible. Là, aujourd'hui, en l'occurrence, c'est juste que les gens prennent conscience que ça remplace des tâches qui, elles, sont visibles. Donc forcément, tout le monde se sent touché plus ou moins de près ou de loin, et forcément, il y a ce type de réaction. Après, je trouve ça quand même plutôt... Mais je pense que c'est aussi une obligation légale de la part de la BBC, plutôt honnête de l'avoir disclose, parce que ça ne se fait pas partout, dans toutes les entreprises, ni dans tous les pays. Il y a eu des cas de figures, même de documentaires, et même, je crois qu'en France, de façon très, très, presque invisible, en fin de compte, il y a eu un documentaire avec des images tournées, mais en fait via Stable Diffusion sur des docs et sur du trafic de drogue sur les docs, et en fin de compte l'utilisation d'intelligence artificielle a été très très peu mentionnée. Donc tout ça pour dire que c'est honnête de la part de la BBC de l'avoir fait. Après la réaction du public, moi je la trouve en fait dans un premier temps normale. Ça sont des choses qui vont s'adoucir par la suite, même si je ne suis pas sûr que ce soit de toute façon une bonne chose qu'on l'utilise à ce type de fin. Enfin, je sais pas, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Je comprends juste la réaction du public, elle est naturelle. Après, ce sont des choses qui vont se tromper, puisqu'en effet, l'IA est déjà partout, et c'est juste que là, elle touche des tâches visibles. C'est une entreprise publique, donc il y a une sorte de devoir éthique pour le grand public.
Yes, on t'a perdu, Jérémy, dans le métro. On a compris l'idée, en effet, du rôle de la BBC, donc le fait qu'ils aient prévenu l'éthique. Moi, je suis ça, peut-être que je... Enfin, je vois un peu les usages, même quand sur un documentaire sur la drogue ou ce genre de choses, l'utilisation d'IA. En effet, je pense qu'à la fin du doc, quand tu cites tes sources de base de données, tes images, tu peux te dire, bah, y en a certaines qui viennent de l'IA, mais je comprends aussi, tu vois, que... Enfin, t'as beaucoup de docs qui vont à un moment utiliser peut-être des bases de données d'images de Capa ou de je sais pas, enfin, qui vont piocher des images random pour faire un documentaire dans des grandes bases de données qui existent aujourd'hui, hein, qu'elles soient, enfin, des bases de données d'images, de vidéos ou autres sur des sujets pour mettre de l'image sur du son. Et je me dis, bon, à la limite, pourquoi pas les générer toi-même ces images avec de l'IA. Limite, t'auras peut-être des choses un peu plus précises de ce que tu cherches, plutôt que d'acheter un truc random quelque part, quoi. Mais c'est... Enfin, moi, en tout cas, sur l'usage, je le comprends et je le trouve pas foncièrement malhonnête, quoi. Mais c'est une bombe. En tout cas, c'est un bon sujet. Rem, on t'a pas entendu, du coup.
Non, bah, y a... je rejoins un peu les opinions de tout le monde, mais je me dis que la levée de bouclier qu'il y a eu en Angleterre, elle pourrait avoir lieu également en France, quoi. Donc c'est pas, je suis pas spécialement surpris en fait.
Ouais. Très bien. Donc en tout cas, oui, je pense qu'on va continuer à en parler mais. Moi, je pense que ça va aller assez vite, quand même.
Je pense que ça va aller assez vite, aussi par l'avancée technologique, quand tu vas te rendre compte à quel point ça va loin, etc. Là, on est à la veille d'une nouvelle version d'un chat GPT encore plus puissant. On a des rendus visuels qui sont, mais genre, complètement dingues, de plus en plus, par de plus en plus de boîtes. T'as une espèce de course qui est... qui est aussi sur les rendus visuels et pas seulement que sur de la réflexion. Donc moi non, je pense que quand les gens vont voir un petit peu aussi ce qu'ils peuvent faire, ça va être. Je pense j'ai pas trop d'avis, mais ça peut faire l'effet inverse aussi. Ça peut faire un effet complètement effrayant où ça va inverser la courbe d'adoption et que ces mêmes gens qui ont porté ces plaintes contre ce truc-là vont lever la voix contre, ou alors tu te rends compte à quel point c'est merveilleux et tu vas vouloir l'essayer et comprendre un petit peu comment ça marche, quoi. Mais avant toute chose, je trouve que ce qui peut rassurer un peu les gens et ce qui peut favoriser un petit peu l'adoption, c'est un, l'explication, tu vois, par des institutions publiques, de la régulation et un cadre, en fait. Juste ça, si t'as toutes les parties prenantes, quand tu prends la production d'un film, si tu as toutes les parties prenantes du téléspectateur, en passant par les acteurs, les scénaristes, les producteurs, etc., sont d'accord avec ce cadre-là et le comprennent, je pense que c'est un truc qui favorise aussi cette adoption, quoi.
Yes. Eh ben, écoutez, en tout cas, on peut en savoir plus en lisant l'article. Arnaud aussi, hein. Arnaud, tu es d'accord ?
Yes, je voulais peut-être rebondir sur le sujet. Fin janvier, il y a une autrice japonaise qui a gagné l'équivalent du prix Goncourt japonais en écrivant un livre dont 5% environ avait été écrit avec une intelligence artificielle. Donc c'est assez intéressant de voir que c'est pas seulement dans les pour tout ce qui va être de la télévision, mais aussi dans la littérature et dans les concours littéraires. Donc l'intelligence artificielle, elle arrive vraiment partout. Et du moment qu'on cite les sources, qu'on explique qu'on a utilisé de l'intelligence artificielle, je trouve que ça reste tout à fait correct. Il faut en tout cas qu'on le mentionne.
Et là-dessus, c'est assez ouf parce que là, j'ai vu ce truc et tu vois à quel point, l'autrice en parle de façon très très facile. Le public est complètement au courant et complètement ok avec ça. Et justement, cette institution, l'équivalent du prix Goncourt, c'est vrai, je ne me rappelle pas du nom, est complètement ok avec ça aussi.
Mais c'est pour ça que je pense que le chiffre culturel qui s'est déjà fait dans certains pays d'Asie, qui sont plus sur les adopteurs aussi, sur les techs, et bon, le Japon, c'est pas étonnant parce que je pense qu'ils rêvent de ça depuis toujours. Culturellement, alors que bon, le public traditionnel de la BBC, chaîne culturelle publique anglaise, est un petit peu peut-être aussi diamétralement opposé en termes de population. Et donc, je pense que ça confirme l'hypothèse du timing. Je pense que dans cinq ans, la même chose se passe et ça laissera tout le monde indifférent, quoi. Mais écoutez, en tout cas, c'était super de tous vous avoir ce matin.
John, je peux rajouter une dernière petite chose.
Vas-y, Samy.
Juste une dernière petite chose qui concerne Decrypt. En gros, dans la nuit, on a eu une breach d'email et notre email info@decrypt.co a été piraté et il y a un mail de phishing qui circule. Donc attention à ce mail. Il y a un Twitter qui a été pin. Enfin, il y a un tweet qui a été pin sur le compte de Decrypt qui explique un petit peu la situation. Et donc, voilà, faites attention à ce mail et n'hésitez pas à me contacter par Twitter ou par mail, sami@decrypt.co, et à double vérifier un petit peu tout si vous recevez un truc de Decrypt. Voilà.
D'accord. Donc oui, il y a eu un leak de mail. Donc, une partie des emails qui sont dans la base des cryptes ont été récupérés par un tiers.
Alors, c'est même, on est en train d'essayer de comprendre parce que ça s'est passé vraiment il y a quelques heures. Mais apparemment, notre compte de newsletter a été compromis.
Donc, ça veut dire que le conseil de base, c'est peut-être de ne pas cliquer sur les liens, de faire attention, en tout cas, de bien vérifier tous les mails qui viennent de Decrypt.
C'est ça. Il n'y a pas d'airdrop de token. Il n'y a pas d'airdrop, il n'y a pas de token.
Je me suis fait drainer mon wallet, ça m'a mis une boîte de l'argent.
Moi je dois de l'argent à personne, mon pote.
Ouais. Voilà, on va te demander les compensations.
Un mail écrit par IA, évidemment.
Il y a des chances. Il y a des chances que c'est l'IA qui vous rembourse aussi.
Ok.
Bon, merci beaucoup, Samy. C'est important de le partager. Rem, je te laisse clore cette émission.
Écoute, ça y est, on va clôturer le space. Demain, on reçoit Michelin et NFT Labs, Infinity Labs, pardon, pour parler de revenir sur le drop de Michelin, justement, les Explorers. Et puis voilà, donc ce sera la room corpo de Jen, numéro 8. Donc avec Jen, évidemment. Voilà.
Passez une excellente journée. Merci Jérémy. On retrouve l'article aussi, du coup, donc, dont on a parlé sur Decrypt. Le lien est partagé. Et puis enfin, merci beaucoup Arnaud, flambeau.xyz, pour vos campagnes marketing. Merci beaucoup tout le monde et good morning.
Good morning.
Good morning. Happy. Good morning. Really happy.